Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Evgeny Prigojine est le patron de la milice Wagner, un groupe paramilitaire russe créé en 2014, engagé actuellement dans la guerre en Ukraine et présent dans une dizaine de pays en Afrique. L'homme d'affaires de 61 ans qui a fait fortune dans la restauration semble agir pour le compte de Vladimir Poutine, mais son armée de l'ombre lui permet aussi de s'enrichir personnellement et aujourd'hui, il n'hésite plus à critiquer ouvertement l'état-major russe. Qui est Evgeny Prigojine? Quelles sont ses ambitions? Éléments de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Paul Gogo, correspondant à Moscou depuis 3 ans, notamment pour Ouest France et Le Parisien. Paul Gogo qui est actuellement à Paris. Tête rasée, dents du bonheur, le visage parfois souriant, parfois fermé, Evgeny Prigojine a longtemps été un homme de l'ombre, mais il prend la lumière ces derniers mois, on va y revenir. D'abord, Paul Gogo, vous allez nous raconter son histoire. Evgeny Prigojine a 61 ans, il est né en 1961 à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à ce moment-là Leningrad. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance ?
Son père est mort assez tôt, sa mère était infirmière, et surtout, il aurait pu avoir un autre destin, parce qu'il s'était engagé dans une école qui mélangeait éducation donc, et sport, et il se destinait à devenir skieur, à faire du ski de fond, mais de façon professionnelle. Et ce qu'on sait également, c'est qu'il n'est pas parvenu à faire de cette passion un métier. Et à partir de ce moment-là, il a laissé tomber cette éducation.
Le jeune Evgeny Prigojine tourne mal et il tombe dans la petite délinquance. Quand il a 20 ans, en 1981, il est condamné à 13 ans de prison pour un crime qu'il a commis un soir de mars 1980.
Il sortait d'un bar avec 2 amis, il a attrapé une femme dans la rue par derrière, il l'a étranglée et ils lui ont volé ses boucles d'oreilles en or. C'est vraiment typique de ces années en Russie, des années qui étaient marquées par les mafias, par la délinquance. Et bien Evgeny Prigojine était dans le camp des délinquants à cette période.
Il sort de prison après 9 ans de détention, en 1990, en plein effondrement de l'URSS. Evgeny Prigojine se lance alors dans la restauration rapide à Saint-Pétersbourg. Il vend des hot-dogs dans un stand.
Oui, alors c'est évidemment assez étonnant quand on connaît son parcours actuel. Il a commencé depuis son appartement avec sa mère. Il mélangeait, il préparait la moutarde dans son appartement. Il s'est ensuite, il a créé des enseignes de restauration rapide. Il s'est mis au blini, aux crêpes. Il s'est mis à vendre des crêpes dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et puis progressivement, il est monté en gamme. Il a commencé à ouvrir d'autres restaurants.
Les affaires marchent très bien pour Evgeny Prigojine, qui a ouvert son premier restaurant en 1995, La Vieille Douane, un restaurant de luxe fréquenté par l'élite locale. Dans son établissement, il accueille régulièrement le maire de Moscou et un certain Vladimir Poutine, qui est à ce moment-là adjoint au maire de Moscou.
À ce moment-là, Vladimir Poutine rentre d'Allemagne, il se lance en politique, il vient de rencontrer Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, et lui, de son côté, Evgeny Prigojine, il ouvre des restaurants. C'est très intéressant ce restaurant dans lequel il se serait rencontré parce que Evgeny Prigojine ne l'a pas conçu comme un restaurant de luxe à l'origine. Il y avait des stripteaseuses, ce qu'on voit dans la presse russe, c'est que c'était même un établissement quasiment glauque à l'époque. Et le fait est qu'avec le temps, la nourriture est tellement bonne dans ce restaurant que ça devient un restaurant un peu à la mode, que les élites de la ville commencent à s'y rendre. Et donc c'est à ce moment-là que les deux hommes se sont rencontrés.
Dans les années qui suivent, quand Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie, à partir de l'année 2000, il vient régulièrement déjeuner ou dîner dans les restaurants d'Evgeny Prigogine avec, de temps en temps, des personnalités internationales.
Jacques Chirac, George Bush, même le prince Charles. Sur ces photos, on le voit derrière Vladimir Poutine, derrière ses personnalités politiques. Il a son plateau, il amène les assiettes à ses personnalités. On comprend donc que c'est déjà un homme de confiance du président russe. J'ai lu récemment une interview, une vieille interview d'Evgeny Prigogine dans laquelle il raconte qu'il demandait à ses employés d'écouter tout ce qui se disait et de lui ramener ses informations. Et dans cette interview, d'ailleurs, Evgeny Prigogine sous-entend que peut-être un jour, il écrirait un livre sur tout ce qu'il a entendu à l'époque.
Dès le début des années 2000, Evgeny Prigogine a signé des gros contrats avec la mairie de Moscou, puis avec l'État russe.
Quand il y a un gros contrat public en jeu, on se rend compte, et dès les années 2000, que c'est lui, via ses sociétés, notamment sa société Concorde, qui les remporte. Il a remporté un appel d'offres stratégique assez important qui consiste à nourrir les écoles de Saint-Pétersbourg et Moscou. Rapidement, il s'est mis à fournir des rations alimentaires à l'armée russe. Et puis évidemment, et ça c'est peut-être le plus important parce que ça mêle cuisine et politique, il a rapidement fourni la nourriture à tous les événements, tous les forums, les rencontres organisées par le Kremlin, jusqu'à atteindre, on va dire, l'appel d'offres ultime pour l'appeler comme ça, qui est de gérer la cuisine du président russe et donc de nourrir Vladimir Poutine. Aujourd'hui encore, de ce qu'on sait, c'est encore Evgeny Prigogine qui surveille et nourrit le président russe.
Et c'est de là que vient son surnom, le chef de Poutine. En février et mars 2014, Vladimir Poutine annexe la péninsule de Crimée qui appartient à l'Ukraine. Et à partir de là, Evgeny Prigogine va créer une milice armée. Pendant l'été 2014, il négocie à Moscou, dans les murs du ministère de la Défense, des terrains pour entraîner ses hommes.
Autour de la table, les militaires sont assez surpris de voir ce civil qui vient réclamer un terrain militaire. Et pour s'imposer, il parle de papa, en parlant de Vladimir Poutine, papa qui lui aurait donné toute sa bénédiction pour venir réclamer ce terrain militaire au ministère. Et donc, les militaires finissent par fournir ce terrain qui existe aujourd'hui bel et bien dans le sud de la Russie.
C'est totalement secret à ce moment-là, mais Vladimir Poutine aide Evgeny Prigogine à monter son armée pour occuper la Crimée. Qu'est-ce que ça permet au président russe ?
Ça a permis au président russe d'annexer la Crimée sans en être tenu responsable, du moins dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il a envoyé des hommes armés, sans insigne, occuper la Crimée, pousser les soldats ukrainiens vers le reste du territoire ukrainien. Il a organisé cette annexion de cette façon-là. Lui, Vladimir Poutine, tenait ce discours auprès des étrangers, des Occidentaux, en disant « Nous ne sommes pas là-bas, ces hommes sont en train de mener une sorte de révolution en Crimée, nous on observe ça de loin ». Et puis, rapidement, on a vu ces hommes remettre leurs insignes. Et on s'est rendu compte que c'était bien des Russes qui venaient d'organiser l'annexion. Et cette technique a aussi, dans une certaine mesure, été utilisée dans le Donbass quelques mois plus tard. Et ça a encore une fois permis à Vladimir Poutine de participer à des sommets internationaux dans lesquels il pouvait affirmer que lui n'était pas à l'origine de ce qui se passait, ni en Crimée, ni dans le Donbass.
En 2015, la milice d'Evgeny Prigogine, la milice Wagner, est déployée en Syrie quand Vladimir Poutine vient défendre Bachar el-Assad au pouvoir à Damas. Et sur place, les miliciens de Wagner se montrent sans pitié.
Et il y a notamment une vidéo qui sort. La vidéo, elle montre un déserteur syrien torturé par des miliciens qui se sont filmés eux-mêmes. Et on les voit, en gros, découper le corps de façon particulièrement brutale. Et ensuite, finir par l'attacher par les jambes et brûler cette personne. Elle arrive à l'époque jusqu'en Russie. Et c'est très intéressant parce qu'un média qui était à l'époque encore présent, la Novaya Gazeta, s'est intéressé très rapidement à cette vidéo-là. Et a permis de prouver que ces hommes qui avaient participé à ces exactions étaient bien de chez Wagner. Et que ces exactions étaient très régulières en Syrie et étaient en fait même monnaie courante.
Evgeny Prigogine crée dans le même temps une armée numérique, des informaticiens basés à Saint-Pétersbourg, salariés de l'une de ses entreprises, Internet Research Agency. Ces salariés produisent des fausses informations destinées à influencer les citoyens des pays étrangers, par exemple les citoyens des États-Unis pendant la campagne présidentielle de 2016 avec face à face Donald Trump et Hillary Clinton.
Effectivement, Evgeny Prigogine s'en est vanté il y a quelques semaines. Dans les faits, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle cette usine à trolls en Europe ? Ce sont des bureaux qui sont situés à Saint-Pétersbourg avec des dizaines d'employés qui sont dans leur bureau toute la journée et qui diffusent de la désinformation russe en plusieurs langues sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut mesurer l'impact de cette désinformation parce que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas forcément la culture du pays qu'ils désinforment. Et les recherches qui ont pu être faites sur cette désinformation organisée sur les élections américaines montrent qu'en fait, le rôle d'Evgeny Prigogine a été mineur. Et donc, c'est un rappel très important qu'Evgeny Prigogine se vante beaucoup, mais ce qu'on comprend, c'est que souvent, ça n'a pas tant d'efficacité ce qu'il produit.
Dans les années qui suivent, Paul Gogo, les combattants de Wagner sont déployés dans une dizaine de pays en Afrique. Pourquoi et comment ?
Alors, ils signent des contrats officiels, c'est peut-être effectivement la différence avec ce qui s'est passé en Crimée et dans le Donbass, c'est-à-dire qu'officiellement, ce sont des spécialistes en sécurité qui arrivent en Afrique et qui ont pour objectif de protéger des personnalités généralement politiques ou alors des industries importantes du pays. Parce que le produit principal que Evgeny Prigogine vend à ces pays, qui est le même produit vendu à Vladimir Poutine, c'est une stabilité politique. Ces miliciens ont pour objectif de permettre au président ou aux opposants, aux miliciens qui sont au pouvoir, de garder ce pouvoir.
Et pour Evgeny Prigogine, ces contrats en Afrique sont très profitables.
Evgeny Prigogine, il est payé très cher, donc dans un premier temps. Et en plus, les miliciens en question, ils font pas que protéger les industries du pays. Ils s'en emparent, ils rentrent dans les conseils d'administration. On sait qu'en s'attribuant l'exploitation de certaines de ses ressources, Evgeny Prigogine se sert de l'argent obtenu grâce à ses ressources pour financer sa milice, mais on sait aussi que sa fortune s'est entre autres constituée sur l'exploitation de ces ressources dont il a pu prendre le contrôle en Afrique.
En Centrafrique, au mois de juillet 2018, trois journalistes russes qui enquêtaient sur les exactions de la milice Wagner dans ce pays sont tués. Ils tombent dans un guet-apens.
Ces trois journalistes étaient connus à Moscou comme des journalistes d'investigation et on sait qu'ils enquêtaient en Centrafrique sur les activités d'Evgeny Prigogine et de Wagner dans ce pays parce que c'est le pays certainement où Wagner a été le plus présent ces dernières années. Ces trois hommes, ils se rendaient justement à proximité d'une base de Wagner. Quand ils ont été arrêtés par des hommes armés sur la route, ils ont été donc tués sur place par ces hommes. L'enquête a été bloquée, il faut le dire comme ça, par les autorités russes. Évidemment, le soupçon qu'ont ses collègues aujourd'hui, c'est que c'est Evgeny Prigogine qui se serait débarrassé de ces journalistes assez gênants. Parce que quand vous enquêtez sur les business africains, on va dire, d'Evgeny Prigogine, là, vous touchez à un point très sensible. Ça reste aujourd'hui encore, et malgré la guerre en Ukraine, la partie, on va dire, la plus importante du business d'Evgeny Prigogine, l'Afrique. Et donc, il tient, et particulièrement auprès de la population russe, à son image et à ce genre de business.
À ce moment-là, Vladimir Poutine dément tout lien avec Evgeny Prigogine et la milice Wagner. De son côté, Evgeny Prigogine nie être le patron de cette armée secrète et il attaque en justice les journalistes qui affirment que c'est le cas. Il intimide aussi, par exemple, une avocate russe qui enquête sur lui.
Lyubov Sobol, une opposante proche d'Alexei Navalny, qu'on connaît parce qu'il est aujourd'hui emprisonné, elle fait partie de ceux qui ont expliqué qu'il était lié à Wagner, mais elle avait aussi dénoncé un empoisonnement qui a eu lieu il y a quelques années dans les écoles de Moscou où des enfants ont été empoisonnés à la cantine, qui est gérée par les entreprises d'Evgeny Prigogine. Lui n'avait pas apprécié ça et donc il a lancé une sorte d'offensive contre cette opposante. Il est allé jusqu'à la faire condamner par un tribunal. Il y a aussi un autre journaliste, Alexei Venediktov, qui, il y a quelques années, a lui aussi expliqué qu'Evgeny Prigogine était le responsable de Wagner et la justice russe l'a condamné pour cette affirmation.
Paul Gogo, on en vient au jeudi 24 février 2022. Ce jour-là, Vladimir Poutine annonce qu'il veut annexer l'Ukraine, c'est le début de la guerre. La milice Wagner se déploie en Ukraine et à partir de là, Evgeny Prigogine se montre de plus en plus.
C'est un moment clé, évidemment, dans le parcours d'Evgeny Prigogine parce que les Russes ne connaissaient pas ou peu son existence jusqu'à ce moment-là. Lui décide de se rendre public, de devenir une personnalité publique. Il communique beaucoup, toute la journée. Son service de presse publie tous les jours des réactions d'Evgeny Prigogine sur ce qui se passe dans le Donbass ou dans l'actualité russe, sur l'application Telegram. Il s'oppose en patriote en chef. Il dénonce les élites du pays en essayant d'opposer, on va dire, le public au privé. Lui, il a des entreprises qui se battent contre la corruption et qui sont donc plus efficaces, notamment dans le Donbass, que l'armée russe qui, elle, il le dit quasiment comme ça, serait rongée par la corruption.
Un jour, au mois de septembre, il est dans une prison à Yoshkar-Ola, à 800 km à l'est de Moscou. Il recrute des hommes pour sa milice, la milice Wagner. Une vidéo de cet échange est publiée. Qu'est-ce que l'on voit à l'image ?
On voit cet homme chauve, Evgeny Prigogine, qui regroupe plein de prisonniers sur le stade d'une prison. Et il s'adresse à eux comme presque un mélange de chefs d'entreprise et d'anciens prisonniers. En gros, il explique à ses prisonniers « Je suis comme vous, j'ai fait de la prison, je vous comprends. Vous n'avez pas d'avenir, potentiellement. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer 6 mois dans le Donbass. » Et pour ceux qui survivent, il leur promet une sorte de nouvelle vie, de dignité retrouvée après s'être battu pour la patrie en Ukraine, et surtout une amnistie.
Paul Gogo, à travers cette vidéo, Evgeny Prigogine reconnaît pour la première fois qu'il dirige Wagner.
Effectivement, cette vidéo, elle rend clair son rôle dans l'État russe. L'opposant Alexei Navalny décrit cette situation d'une façon assez intéressante. Il explique que Evgeny Prigogine se montre enfin comme quelqu'un qui est capable d'aller recruter des gens en prison, ce qui était illégal en Russie, et de les envoyer sur une zone de guerre. Et Evgeny Prigogine se retrouve dans une position donc où il doit assumer son rôle. Il montre au pays entier qu'il a une société, que sa société a besoin d'hommes pour fonctionner.
Au mois de novembre, en Ukraine, un déserteur de la milice Wagner est retrouvé par les miliciens. Il est tué d'une façon ignoble, la tête scotchée à un parpaing, écrasée à coups de masse. La scène est filmée, vidéo publiée. Et Evgeny Prigogine cautionne ce crime, Paul Gogo. Magnifique vidéo, commente Prigogine, au chien, une mort de chien.
Effectivement, il en joue, il communique beaucoup sur ce crime. L'exécution à coup de masse, c'est un écho à celle qui avait eu lieu quelques années plus tôt en Syrie. Et c'est, de mon point de vue, ce qui prouve que cet homme agit comme un responsable de mafia. Parce que, oui, il peut se montrer, on va dire, charmant, sympathique au moment du recrutement des hommes. Mais par contre, une fois que vous êtes à l'intérieur, il se montre impitoyable. Toute personne qui ne respecterait pas les règles au sein de son entreprise sera exécutée. Et on sait que ça a eu lieu plusieurs fois.
Paul Gogo, cette année, le mercredi 22 février, Evgeny Prigogine poste, via son service de presse, une vidéo de lui devant des dizaines de corps de combattants russes.
Et il accuse l'armée russe d'être à l'origine de ces morts. Alors pourquoi il fait ce coup de communication ? Parce qu'il reproche à l'armée de ne pas lui fournir assez d'armes. Il n'achète pas lui-même les armes, puisqu'il n'existe pas, sa ministre n'est pas censée exister, mais il reçoit bel et bien des armes qu'il commande auprès du ministère de la Défense. Or, apparaît avec cette vidéo un conflit entre lui et les responsables du ministère de la Défense qui, visiblement, tenterait de limiter son influence en lui livrant le moins d'armes possible. Et donc, encore une fois, Evgeny Prigogine se montre dans cette vidéo comme le patriote en chef. Moi, je veux tout faire pour éviter ces morts. Mais là, les responsables de ces morts, ce sont les élites qui sont au sein de l'armée russe et qui ne se battent visiblement pas dans le même camp que nous.
Et il vise directement plusieurs hauts responsables de l'armée russe.
Il leur reproche d'avoir entamé une guerre contre lui, une guerre dans la guerre.
L'avancée progresse moins vite que ce qu'on aurait souhaité. Pourquoi ? Si nous n'avions pas été ralentis par notre bureaucratie militaire monstrueuse et des obstacles quotidiens, je pense qu'on aurait pu prendre contrôle de Bakhmout avant le nouvel an. S'il y avait 3 à 5 groupes Wagner sur plusieurs axes, voilà longtemps qu'on laverait nos chaussettes dans le fleuve Dniepr.
Évidemment, il critique jamais Vladimir Poutine, mais là, il cible des gens au sein du ministère de la Défense. Et là, la guerre est déclarée entre lui et ce ministère.
À la même période, Evgeny Prigogine est victime de hackers, de pirates informatiques, qui dévoilent des milliers de documents lui appartenant, notamment son agenda numérique privé, qui prouve des contacts réguliers avec le Kremlin et avec Vladimir Poutine en particulier.
On comprend qu'il fait partie des rares personnes capables d'avoir un contact direct ou presque direct avec le président russe. On remarque notamment 62 appels ou rencontres entre lui et Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov a été plusieurs fois interrogé sur Evgeny Prigogine ces dernières années parce qu'il parle au nom de Vladimir Poutine et à chaque fois il répondait qu'il n'avait jamais entendu parler de ce personnage. Et d'un autre côté, il y a des rendez-vous avec Vladimir Poutine, donc secrets, parce que ces rendez-vous n'apparaissent pas dans l'agenda du président russe. Cet agenda d'Evgeny Prigogine parle de 6 rendez-vous entre lui et Vladimir Poutine, ce qui peut paraître peu, mais ce qui, dans la Russie d'aujourd'hui, est tout de même quelque chose. Ça montre un certain degré, tout de même, de proximité avec Vladimir Poutine.
Paul Gogo, est-ce que l'on sait quelle est l'ambition d'Evgeny Prigogine ?
C'est toute la question qui se pose, parce qu'il y a cette rumeur qui persiste en Russie d'un homme qui réfléchirait à faire de la politique. Alors on sait qu'en Russie, on ne crée pas de parti politique sans l'accord de Vladimir Poutine. Mais force est de constater que Evgeny Prigojine commence à avoir des milices régionales dans plusieurs régions du pays. Il a un QG à Saint-Pétersbourg. Il a une certaine influence maintenant sur la population russe en ces temps de guerre. Et je pense que Vladimir Poutine, oui, observe de très près l'évolution de la popularité de cet homme.
Justement, Paul Gogo, est-ce que Evgeny Prigojine a toujours le soutien de Vladimir Poutine ?
Il y a une tendance en ce moment de la part du Kremlin à essayer de le calmer. On le voit notamment par les baisses de livraison d'armes auprès des mercenaires de Wagner. Aussi, une demande de censure qui aurait été formulée par le Kremlin auprès des télévisions russes qui n'ont plus le droit de citer Evgeny Prigojine. C'est comme ça que ça se passe en Russie quand le président veut essayer de faire disparaître quelqu'un. Donc on comprend qu'Evgeny Prigojine a pris une certaine influence. La question qui se pose désormais, c'est de savoir si Vladimir Poutine lui permettra ou non de faire de la politique.
Merci Paul Gogo. Je rappelle que vous êtes correspondant de Ouest France et du Parisien à Moscou et que vous êtes actuellement à Paris. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio. Vous pouvez nous écrire pour nous faire vos retours. codesource@leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiole.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.